19h21 sur France Inter, voici le téléphone sonne Europe en direct de Strasbourg avec Stéphane Leneuf.
France Inter, le 18-20.
Bonsoir, controverse, incertitude, inquiétude, questionnement, voilà les mots qui reviennent le plus souvent lorsqu'on évoque la future relation USA-Union européenne après la victoire de Donald Trump. Certains prédisent déjà la fin de l'OTAN, d'autres s'inquiètent de la possible entente Trump-Poutine par-dessus la tête des Européens. Les plus pessimistes voient même la fin de l'Europe, tant les mouvements d'extrême droite et populistes se sont réjouis de cette victoire. En revanche, les plus optimistes y voient une chance, et oui, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche serait en quelque sorte un signe. Signal d'alarme pour les Européens, une arrivée qui les pousserait à faire un petit peu leur introspection et à prendre enfin en main leur destin. Quel sera également l'avenir de la relation commerciale Europe-USA avec un nouveau président qui affirme ouvertement des positions isolationnistes? Va-t-on vers une guerre commerciale? Donald Trump vient de rappeler qu'il dénoncerait le traité commercial transpacifique dès son entrée en fonction. Alors ce soir en direct du Parlement européen avec mes invités, je vous propose de tenter de répondre à cette question avec le slogan « Amérique d'abord ». Quel peut être l'avenir de la relation Europe-États-Unis après la présidentielle américaine?
Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Leneuf.
Et au standard, au 01 45 24 7000, on retrouve Alexandre. Vous nous appelez de Paris. Bonsoir Alexandre.
De Paris 14. Bonsoir. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, est-ce qu'il y a un risque, et quel est-il ce risque réel de trompisation vis-à-vis de l'Europe? Et je dirais même plus à l'international, avec d'autres pays comme la Chine, mais bon, ça c'est pas dans l'ordre du jour, c'est l'Europe qui nous intéresse.
Alors, trumpisation de l'Europe, Alexandre, pour vous répondre autour de la table, j'ai réuni Charles Goerens, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, Frank Engel, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe du Parti populaire européen, et Victor Bostinaro, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes, bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, question d'Alexandre, trumpisation de l'Europe, Frank Engel?
Oui et non. D'une part, elle est déjà là, dans le sens que c'est un candidat américain qui a misé sur les démunis, sur les oubliés, sur ceux dont personne n'avait cure, dans une campagne républicaine inouïe, parce qu'aucun autre candidat, du moins pas après Ronald Reagan, n'aurait tenté la même chose, et aucun autre candidat républicain n'aurait gagné cette élection. Contre Hillary Clinton, cela étant, Bernie Sanders aurait gagné cette élection même contre Trump, parce qu'il aurait réussi à mobiliser les mêmes personnes. Alors, de façon plus convaincante. Ce qui a fait la différence cette fois, c'est qu'il y a eu des millions de gens qui sont transportés aux urnes,
alors,
qui n'y étaient plus allés pour simplement...
Non, mais
il faut juste que je le dise. Pour simplement exprimer qu'ils en avaient marre d'être oubliés, d'entendre des slogans et à la fin du compte, voir que pour eux, rien ne changeait.
C'est
déjà là aussi. C'est déjà là aussi. On le voit en France, on le voit en Autriche, on le voit aux Pays-Bas, on le voit désormais en Allemagne, on le voit en d'autres endroits, on le voit en Europe de l'Est. Donc ce phénomène-là, le principe de ce phénomène est depuis longtemps déjà là. Alors le candidat, le caractère, l'acteur Trump en lui-même, me semble quand même encore être largement un phénomène américain qui ne risque pas tellement de se répliquer en Europe.
Charles Goerens.
Oui, écoutez, il y a un mal américain, il y a un mal européen, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le mal américain, c'est que les classes moyennes souffrent, le mal européen, c'est la même chose, il y a beaucoup de pauvres par-dessus le marché, et c'est le résultat d'une globalisation mal maîtrisée. Il n'y a aucun pays au monde qui n'ait réussi à réduire le fossé entre riches et pauvres. Et entre les deux, il y a des classes moyennes qui souffrent. Et lorsque les classes moyennes basculent, ça n'augure jamais rien de bon. Donc, est-ce qu'on est condamné à subir la trumpisation? Ça dépend du courage que l'Europe est prête à faire valoir dans ce débat. Depuis le 1er janvier 2015, on subit, on attend, on ne fait rien, on ne fait pas de nouvelles propositions parce que les États-Unis sont en pré-campagne. Et puis il y a la campagne, on ne fait rien non plus. Et puis il y a l'élection, on attend encore 2 mois pour mettre en place une nouvelle administration.
Les Européens sont trop passifs selon
vous. Ils sont trop passifs et puis on donne encore 100 jours au président élu avant d'attendre qui sera le premier invité à la Maison Blanche, et ce ne sera certainement pas Mme Mogherini qui en fait est susceptible de représenter l'Union Européenne, ou M. Tusk ou M. Juncker.
M. Bastiano.
C'est un risque réel. D'un côté, c'est la crise sur laquelle mes collègues ont déjà parlé. La deuxième question, c'est la crise des partis politiques, le mainstream, et ça existe aussi. La troisième problème, c'est la présence des mouvements anti-système. Et je peux dire que M. Trump a utilisé comme un véhicule l'angoisse anti-système pour l'utiliser pour la victoire. Mais ici, en Europe, voilà les positions prises par Marine Le Pen, par Nigel Farage, par tous les partis anti-système 5 Stelle. Ils ont tout salué la victoire de Donald Trump. Ils ont tout mobilisé leurs forces sur l'élan donné par la victoire de Donald Trump. Donc, c'est une question extrêmement grave. Avant les élections présidentielles en Autriche, avant les présidentielles en France, avant les élections en Allemagne et aussi avant les élections européennes à l'avenir. La sagesse et la responsabilité des partis politiques demandent une coopération et une concertation aussi des réponses pour la crise.
En Roumanie aussi, M. Bostinaru, il y a des risques de populisme
Heureusement, ce n'est pas une présence populiste ou extrémiste, c'est un mouvement qui se déclare elle-même anti-système, mais qui est probablement créé par le système pour utiliser le mécontentement des citoyens, mais c'est clair que le risque existe partout.
Au standard, Martin, vous nous appelez de Tours. Bonsoir Martin, on vous écoute.
Oui, bonsoir. L'arrivée de Donald Trump va augmenter la puissance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. La faiblesse de la Commission européenne, on la connaît depuis pas mal d'années. On entend parler de la Roumanie. Les Américains n'ont pas attendu l'arrivée de Donald Trump pour faire des joint ventures avec des sociétés roumaines pour prendre pied et pouvoir vendre leurs produits très facilement, notamment tout ce qui est maïs, notamment tout ce qui est soja, etc. Donc ils vont durcir. Le libre-échange ne va pas fonctionner. Les échanges avec les Américains, moi j'ai travaillé avec eux, notamment une très grosse compagnie américaine qui s'appelle Cargill, qui est basée à Minneapolis. Je sais très bien comment ils fonctionnent. Et donc ces gens-là, ils vont devenir de plus en plus puissants. Et la faiblesse de la Commission européenne, de la faiblesse des États européens, va faire que ces gens-là vont avoir une plus grande force de pénétration en Europe, tout en ayant une protection, un protectionnisme très fort, très puissant aux États-Unis. Et on verra, là, on va le voir dans le temps. C'est ce qui va se passer. Derrière Trump, c'est pas tellement Trump en lui-même qui est quelqu'un de très particulier, ce sont toutes les sociétés qui sont derrière Trump, qui vont vouloir récupérer cette puissance. Alors, les Américains, c'est pas les présidents qui décident tout, c'est surtout les lobbies des armes, les lobbies des pétroles, les lobbies des échanges commerciaux, les géants du grain. Ce sont ces gens-là qui vont prendre la puissance par rapport à l'Europe. Et l'Europe va partir en morceaux. On va se faire croquer. C'est pas compliqué. Je l'ai déjà vu, le maïs a déjà baissé de 50% quand les Américains ont réussi à pénétrer l'Europe. Le soja, c'est la même chose. Je parlerai pas du poulet au qu'ils ont essayé de vendre, etc. Ce sont des gens, moi je les ai vus fonctionner, je sais comment ils fonctionnent. Et là, au contraire, ils vont avoir l'appui du gouvernement américain et ça va être extrêmement fort et très puissant. Et nos diplomates, les personnes qui le sont dans la Commission européenne, tout ça, taratata, et les traités qu'on passera avec eux, ce sera des traités à sens unique.
Témoignage, merci de votre témoignage Martin, témoignage de Martin sur la brutalité effectivement des Américains. On parlait tout à l'heure que les Européens finalement étaient en situation attentiste, faiblesse européenne aussi. Charles Goerens, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour contrer effectivement cela?
Oui, je serais d'abord moins fataliste que M. Martin parce que il omet quand même de citer la commissaire responsable pour la concurrence qui a mis en échec une multinationale. Il a obligé à verser 13 milliards d'impôts
à
l'État irlandais. Il y a des États qui s'y opposent, donc ce n'est pas la faiblesse de la Commission ici, mais c'est la lâcheté des États ou les égoïsmes nationaux qui l'emportent sur une volonté de faire payer les impôts par tout le monde. Donc je crois qu'il faut quand même mettre à l'actif de la Commission certaines réactions qui redonnent un peu d'autorité à la Commission. La faiblesse de la Commission, Mais disons quand même, rappelons à cet auditeur que la Commission est dépositaire de compétences lui données auparavant dans le cadre des traités par les États membres. Et la faiblesse des États membres, maintenant, se projette sur toutes les institutions européennes. On le voit au niveau du Parlement européen. Il y a 4 États qui n'acceptent aucun partage des charges, notamment issues de la crise des réfugiés. Ajoutons à cela qu'il y a des États qui ne respectent plus la loi européenne, qui s'y opposent franchement, notamment M. Orban. Les institutions européennes sont impuissantes face à ce phénomène, du moins dans le court terme.
Frank Engel, la Commission a de vrais pouvoirs quand même, Charles Grenz vient de le rappeler, notamment en matière économique. Martin avait plus une inquiétude par rapport à cette faiblesse européenne et cette inquiétude finalement pour l'instant. Alors à part effectivement la Commission qui en matière économique de temps en temps tape du poing sur la table, mais il y a une vraie crainte de la faiblesse européenne.
Oui, il peut y avoir une crainte, mais comme si souvent, elle se cristallise autour du mauvais destinataire. Moi, je peux vous dire, et les collègues pourront le confirmer, que la Commission essaie depuis belle lurette, d'ailleurs ensemble avec le Parlement, de renforcer de façon stricte nos instruments de défense commerciale internationaux. Ce sont certains États membres qui s'y opposent. Pour la bonne et simple raison qu'ils semblent mus par un libre-échangisme outrancier. Ce n'est pas la Commission qui ne veut pas, elle a fait des propositions. Ce n'est pas le Parlement qui ne veut pas, il a signalé son adhésion à cette approche. C'est des États membres qui ne veulent pas et qui bloquent l'Europe d'une avancée quelconque. C'est la même chose en matière d'accès au marché. Nous opérons dans une logique de marché public qui est largement ouverte à tout le monde, dans tous les secteurs. Aux États-Unis.
Tout est fermé aux États-Unis. Les marchés publics sont fermés.
On parle d'entre 20 et 30% peut-être qui serait ouvert. En Chine, c'est moins de 20%. Donc, à la fin du compte, est-ce que nous faisons une erreur quand nous sommes tellement ouverts et les autres tellement fermés ?
Alors, est-ce que
probablement, sans réciprocité aucune, oui. Et cette réciprocité-là, soit nous allons nous mettre à la redécouvrir relativement vite. Soit je crains que les populations vont nous y contraindre parce que les gens en ont marre d'un tel
alors,
déséquilibre dans les échanges commerciaux.
Est-ce que finalement, cette position, l'Amérique d'abord de Trump, finalement, ça ne va pas servir un peu les intérêts des Européens du coup? Parce qu'on va se dire, finalement, les Américains ferment les frontières, on va voir ce qu'il va faire, hein, Donald Trump, faisons la même chose.
C'est un risque réel d'isolation de les deux côtés. D'un côté, les Américains. Et c'est prévisible, aujourd'hui même Donald Trump a annoncé qu'ils veulent se retirer du d'accord transpacifique.
C'est ce que Donald Trump a annoncé hier,
oui.
Effectivement.
Deuxième question, c'est une volonté isolationniste aussi en Europe, mais n'oublions pas, c'est facile d'être isolationniste, mais c'est le vrai danger de l'économie européenne sur les marchés mondiaux. Avec l'isolationnisme, les pays les plus forts, les plus dynamiques, sans avoir l'accès libre sur les marchés internationaux, et de l'autre côté, sans avoir l'Union européenne comme force directrice pour désigner et implémenter les nouveaux accords commerciaux, l'Europe est perdue. Nous sommes assez petits par comparaison avec les Américains ou les Chinois. Et la dernière question sur l'isolationnisme et le risque. Le vide créé potentiellement par les Américains sera immédiatement occupé par les Chinois ou par le bloc asiatique.
On a vu la réaction, effectivement.
Aujourd'hui, la Chine avait annoncé qu'elle va pousser pour un accord transpacifique, le ASEAN, avec les partenaires des deux côtés du Pacifique, au Pérou. C'est mieux si l'Europe reste. Je crois que la seule possibilité pour l'Union, et c'est ça que le Parlement fait aujourd'hui, une autre mondialisation avec des règles aussi sur l'environnement, les droits sociaux, les standards sanitaires, mais aussi combattre l'isolationnisme. Pour moi, en tant que Roumain, l'isolationnisme, c'est le pire et c'est la mort économique de notre continent et de l'Union. Et je veux dire à M.
Martin, oui. Absolument.
Aujourd'hui, un géant économique européen a acheté un géant américains dans le domaine des céréales même se modifier génétiquement. Et ça veut dire que le diable est aussi parmi nous. Il faut gérer avec les nouvelles règles du commerce international et aussi les instruments de défense. Et finalement, n'oublions, c'était le Parlement et la Commission pour proposer aussi les instruments de défense commerciale, mais c'était toujours le Conseil, ça veut dire les pays membres. Et quel pays? Pas tous. Les pays les plus forts ont toujours opposé leur volonté et leur opposition à un accord pour créer les instruments de défense.
Charles Guérin, visiblement, si on suit effectivement Donald Trump, le libre-échangisme, le traité transatlantique a du plomb dans l'aile quasiment définitivement, puisque même sur le traité transpacifique, il vient de dire qu'il ne le ratifierait pas, il ne le signerait pas. Quelle peut-être dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nouvelles relations commerciales avec les États-Unis ? Qu'est-ce que peut faire l'Europe ? Quelles propositions peuvent faire les Européens sur ce domaine-là ?
D'abord, les Américains ont mis fin à la coopération transpacifique dans le domaine du commerce. Et ce sont les Européens qui ont signalé qu'ils ne voulaient pas de ce traité transatlantique en ce qui concerne le commerce, le TTIP. Donc je crois que les responsabilités sont partagées. Est-ce qu'on n'est pas foutu de définir en commun quelles sont nos visées quant au maintien du multilatéralisme dans le domaine du commerce ? Est-ce qu'on a des vues communes sur les normes, sur le système normatif ? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec les Américains
comme
avec les autres ? Mais c'est une question qu'il faut poser. Je crois qu'il faut les poser en ces termes. Est-ce qu'on peut...
Charles Guérin, ces questions étaient posées déjà depuis plusieurs mois avec le TIPP, puisque visiblement, on n'était pas capable de se mettre d'accord avec les Américains.
Oui, mais moi,
c'est très difficile.
Moi, ce que je dénonce, c'est l'absence d'impulsion politique de la part des Européens. Qui se rend, qui
vous êtes qui d'accord avec Martin, du coup hein.
Alors, la presse y a déjà répondu, c'est Mme Merkel, depuis qu'elle a annoncé sa candidature. Alors, est-ce qu'on va mettre tout sur les épaules de Mme Merkel, ou est-ce que les institutions européennes vont l'aider à porter le message outre-Atlantique ? Est-ce qu'on est capable de définir avec des pays, des grands ensembles économiques qui partagent nos valeurs, de s'entendre sur la convergence des systèmes de qualité vers le haut ? Est-ce qu'on peut ajouter une dose de respect de l'environnement ? Est-ce qu'on peut ajouter une dose de respect des moyens susceptibles de prévenir du changement climatique ? Je crois qu'il faut avoir le courage d'affirmer cela. Qu'est-ce qu'on sait de Trump ? On ne sait rien du tout parce qu'il se contredit à longueur de journée.
Frank Engel.
Formulation très simple. Mais à la fin du compte, qui représente tout le souci qu'on a. Dans ce monde des échanges internationaux, il y a des règles. Il y aura des règles. Soit nous les définissons, alors il faut agir de façon proactive et arrêter de dénoncer tout à tort et à travers, s'opposer à tout pour le principe, comme cela se fait trop souvent en Europe entre-temps, ou alors on les subit. Moi, je préfère les définir que de les subir.
Une excellente conclusion, parce que le risque, c'est la marginalisation de l'Union européenne si nous agissons ensemble pour contribuer à ça.
On a compris que pour l'instant, on était tous d'accord, il fallait...
Ce qu'on peut aspirer maintenant, c'est que Trump ne touche pas aux règles existantes, parce qu'elles permettent à l'Europe d'être excédentaire par rapport aux États-Unis.
Et remarque pas exactement personnelle. Je n'imagine pas que l'économie américaine, les acteurs économiques américains les plus forts vont laisser M. Trump faire tout ce qu'il veut. Je n'imagine ça. Les multinationaux américains ont toujours besoin d'un espace de libre-échange et d'investissement. C'est pour ça que je veux vous proposer, vous suggérer, faire la différence entre la fièvre de la campagne électorale et la manière dans laquelle les acteurs décident au gouvernement, soit les Américains, soit nous les Européens.
En tout cas, pour l'instant, même si on dit que Donald Trump va être pragmatique et va faire du business avant, pour l'instant, sur le traité transpacifique, il reste sur ses positions. Charles Guérin.
Oui, n'empêche que, disais-je il y a un instant, que les règles...
Donc pour conclure, excusez-moi, il n'y a aucune raison que par rapport au TIPP, ils ne disent pas au mois de mars, terminé, les négociations sont finies.
Oui, mais ça, il a dit à propos de l'espace économique transpacifique. À propos de l'Union européenne, il va falloir qu'il précise ses positions. Si rien n'est changé, nous sommes dans un cadre où le commerce est encore possible. Et avec les injonctions de notre collègue roumain, je crois qu'avec certaines précautions, on peut dire que ce n'est pas la fin du monde. Ça va être très difficile, ça va être très dur, mais ne soyons pas trop fatalistes. Je le répète, nous avons aussi un point de vue politique à pouvoir. Ne restons pas muets.
J'ai ici une remarque de Jean-Pierre de Lyon sur Internet. Rien ne va changer sans les USA. L'Europe n'existe pas économiquement et militairement. Il ne faut pas se laisser impressionner. Trump, finalement, a été élu démocratiquement. Jean-Pierre de Lyon. Charles Goerens.
Si le système français était en vigueur aux États-Unis, c'est Mme Clinton qui aurait gagné les élections. Donc Mme Clinton n'a pas été marginalisée par les élections, mais elle les a perdues parce que le système est différent. Moi, je crois que ce n'est pas la fin du monde. Ça va être très difficile. Je reste encore une fois d'avis qu'il va falloir être extrêmement déterminé, que nous allons devoir nous rencontrer en Europe pour faire un débat de fond sur la question de savoir de quoi l'avenir sera fait. Et c'est extrêmement important avant les élections françaises, où j'espère que l'Europe fera partie du débat politique, y compris en Allemagne, où l'Europe a un rôle à jouer. Ce que je constate actuellement, c'est qu'il y a une peur généralisée qui est en train d'envenimer tous les climats politiques, comme si on restait impuissant face à ce phénomène. Je crois qu'il y a des messages à articuler plus clairement, il y a des choses à dire très clairement. Il faut dire que tout ce que nous avons réussi à faire depuis 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on ne va quand même pas tout détricoter. Disons aussi que l'euro est un succès. Disons que le marché unique est un succès. Tout est perfectible. Nous ne sommes pas au moment où on peut dire décréter la fin de l'histoire. Nous ne sommes qu'au début de l'exploitation de potentialités qui sont les nôtres.
Alors, Donald Trump a déclaré qu'il allait privilégier les traités bilatéraux. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai risque pour l'Union européenne, Frank Engel?
C'est un risque pour tous ceux qui aimeraient retomber dans le même piège que celui dans lequel nous tombons les uns après les autres par rapport à la Chine. La Chine nous joue les uns contre les autres depuis des années. Et hélas, il y a même des régions entières d'Europe qui aiment tellement la Chine et les quelques débouchés qu'elle offre des avantages encore plus particuliers dans ce bloc des 16+1, comme ça se dit, tous les États membres orientaux de l'Union européenne, plus tous ceux des Balkans occidentaux, dans un arrangement particulier avec la Chine, parce que la Chine a besoin d'un débouché particulier de sa nouvelle route de la soie en Europe orientale. Pour le reste, n'importe qui aurait envie de s'engager dans cette voie, qu'il entende ce message. Pour la Chine, la France a la dimension de la Corée du Sud et l'Allemagne a la dimension du Vietnam. Ce sont des confettis de banlieue. Quiconque, et je le dis comme luxembourgeois, donc comme représentant...
La France, une grosse région de la Chine ou une petite région de la Chine, et l'Allemagne pareil. On va résumer.
Je dis comme luxembourgeois, donc comme représentant d'une puissance moyenne.
Parce que nous, la Belgique est déjà un empire.
Voilà. Mais à la fin du compte, à l'échelle chinoise, mais également à l'échelle des États-Unis, ça veut dire quoi la France et l'Allemagne? Et même le Royaume-Uni qui veut déjà faire bande à part. On va voir comment cette bande à part fonctionnera entre les deux rives de l'Atlantique. Moi, je vous dis une chose. Si nous tombons dans le piège de la bilatéralisation des échanges avec des acteurs nettement plus grands que nous, et je ne veux pas dire avec ça un pays comme la Russie, qui territorialement peut être plus grand, mais économiquement est plus faible, donc l'effet ne joue pas. Mais avec la Chine et les États-Unis, ce serait la mort de la vitalité commerciale et probablement aussi industrielle de l'Europe. Si nous étions prêts à emprunter ce chemin-là, nous finirions comme le Jurassic Park du monde à venir, un territoire beau à explorer pour des riches touristes.
Un beau territoire touristique, voilà. On va dire.
Mais autrement, produire, on ne ferait plus rien.
Charles Goerens, on ira au standard tout de suite.
Une autre source d'inquiétude, c'est le fait qu'on n'arrive plus à faire des accords multilatéraux. J'étais président de délégation de mon pays au moment du lancement du processus de Doha. Et voilà, on était parti sur une toile de fond d'espoir. Mais malheureusement, les pays émergents ont mis fin à ce processus. Donc c'est la raison pour laquelle les accords bilatéraux se multiplient. Donc essayons de revenir, si c'est possible, dans une logique multilatérale. Si ce n'est pas possible, l'Europe ne peut pas rester inactive. Alors elle est condamnée à chercher des voies bilatérales ou dans des espaces plus grands, sans pour autant prétendre à une multilatéralisation du commerce.
Au standard, Jackie, vous nous appelez de Nîmes. Bonsoir Jackie, on vous écoute.
Bonsoir France Inter, bonsoir les invités. Bravo pour vos émissions encore une fois et vos récents succès.
Merci.
Je voudrais rappeler que l'économiste Nicolas Stern, en 2006, a rendu un rapport bien connu qui prévoit que les changements climatiques vont coûter 20 000 milliards de dollars à l'horizon 2030 si rien n'est fait. Confirmé par la COP21 et la COP22, des engagements importants. Ne pourrait-on pas profiter de cet isolationnisme de la Chine, de l'URSS également, et maintenant de la politique de Donald Trump, des États-Unis, pour engager l'Europe, une Europe plus forte, vers les changements climatiques, la transition énergétique, et ainsi offrir des perspectives qui ne soient pas basées sur l'économie du pétrole, justement, et donc d'aller vers non seulement des projets innovants, mais en plus mobilisateurs.
Frank Engel.
Je suis foncièrement d'avis qu'on n'a pas, au fond, besoin d'une attitude plus ou moins amicale de l'un de nos grands partenaires mondiaux pour nous engager dans la voie qui vient d'être décrite. Je me demande pourquoi nous ne le faisons pas beaucoup plus de toute façon. Mais c'est en partie aussi parce que la capacité d'innovation est en train d'émigrer d'Europe, depuis longtemps déjà. Oui, ça résulte également de démarches fort déloyales commerciales comme en Chine par rapport, par exemple, aux énergies renouvelables. Mais ce n'est pas que ça. C'est généralement la multiplication de points d'attrait pour les innovateurs, pour les entreprises innovantes, partout dans le monde, sauf ici. Parce que nous devenons une terre figée économiquement, du moins dans l'ensemble de ce qui est en train de se réaliser. Et dès lors, là encore, comme nous restons plus ou moins dépendants d'approvisionnement en sources fossiles d'énergie, de partenaires qui ne sont pas des partenaires faciles, parce que nous avons nos propres énormes difficultés de société pour nous accorder sur un avenir pour le nucléaire ou non, et nous planons entre tous les horizons en matière de véritablement renouvelable, en matière de véritablement innovant. Pourquoi est-ce que c'est Tesla qui met sur le marché la première voiture vraiment dotée d'une autonomie digne de ce nom, électrique? Pourquoi ce n'est pas une entreprise européenne? Ça aurait très bien pu être le cas, ça ne le fut pas.
Victor Bustinaro, si jamais Donald Trump dénonce l'accord de Paris, qu'est-ce que font les Européens?
Je vais citer exactement Joseph Stiglitz, qui était la semaine passée dernière au Parlement. Basé sur l'Organisation mondiale du commerce, nous avons des règles qui nous permettent à imposer des sanctions aux compagnies américaines qui sont présentes en Europe s'ils ne respectent pas les règles et les engagements sur le changement climatique. Donc nous avons les instruments. De l'autre côté, est-ce que nous avons vraiment la volonté à jouer ces cartes? Parce que ici, je veux vous dire, la tentation bilatéraliste existe depuis longtemps à l'Union européenne, soit vers les Chinois, soit vers les Américains. Mais il faut freiner la tentation hégémonique parmi les pays européens, quelques pays européens, pour arriver à une vraie solidarité et unité quand on discute avec soit les Américains, soit les Chinois, et pour imposer les règles. Et je reviens à Joseph Stiglitz, que j'aime assez beaucoup. Il avait dit, il faut que vous, les Européens, preniez le leadership en matière pour imposer à les autres les règles. Et voilà, la Chine reste engagée sur les changements climatiques et l'accord de Paris, et aussi à l'accord de Maghreb, j'espère. Et avec eux, nous pouvons travailler vers un multilatéralisme pour donner des bénéfices au changement climatique.
Mais la Chine fait ça, juste une phrase, la Chine fait ça simplement parce qu'elle est devenue la pionnière en termes d'énergie renouvelable, et parce que quantitativement pour elle, ça représente une aubaine formidable, alors qu'elle souffre
que les Européens n'ont pas su faire.
Alors qu'elle souffre qu'est-ce que nous préférons indicible. Une Chine qui est contre
non,
ou
non,
une
non,
Chine
non,
qui coopère Soyons pragmatiques.
J'aime bien sortir
d'idéologie ou d'orthodoxie, c'est très, très coûteuse.
Mmh. Charles Guérin, c'est en ira au standard.
Oui. Quiconque s'intéresse à son avenir ne peut pas faire l'impasse sur les renouvelables, sur les moyens de lutte contre le changement climatique. Trump a annoncé aujourd'hui ce qu'il va faire dans les 100 premiers jours. Et parmi les 6 ou 7 mesures qu'il a annoncées, il a annoncé notamment qu'il veut annuler les restrictions apportées aux énergies fossiles. Je crois que la réalité finira par le rattraper. Parce que le monde ne va pas tourner comme le chef stratège de la Maison-Blanche ou Trump lui-même vont l'imaginer.
Il y a le pragmatisme économique et des affaires. On a vu effectivement sur cette affaire de COP, d'accord de Paris, que derrière il y avait des entreprises qui n'étaient pas du tout d'accord, des entreprises américaines qui n'étaient pas du tout d'accord et au contraire qui voulaient qu'on s'y...
On ne sait pas ce qui sera acheté dans 10 ans, mais Trump non plus ne le sait. Donc je crois que le client est en roi, une société civile en éveil, une communauté internationale peut-être sans les États-Unis, j'espère avec les États-Unis, mettra vraiment les points sur les i et ira de l'avant dans une approche très offensive.
On retourne au standard. Jean-Paul, vous nous appelez des Yvelines. Bonsoir Jean-Paul, on vous écoute.
Bonsoir monsieur. Ma question c'est un constat d'une part. L'Europe est la première puissance économique mondiale et finalement c'est elle qui devrait imposer ses règles, ses normes, etc. Or, ce sont les deuxième et troisième puissances économiques mondiales qui les imposent. Alors, moi, je suis bien content d'entendre qu'il faut que l'Europe réagisse, mais ça fait 20 ans qu'on le sait. J'ai pas besoin de dire ces glisses. Le bon sens suffit. Hein. Par exemple, lorsque les Chinois, au début des années 2000, ont dépassé les quotas qui leur étaient attribués de 2 à 3 fois, ils ont commencé les années suivantes. Alors, finalement, il y a quelques protestations, mais on a laissé faire. Donc, il manque une autorité, mais vraiment une autorité avec un grand A, qui mette les points sur les i et qui définisse au niveau européen ce qu'il faut faire et l'impose au monde. Il n'y a pas de raison. Enfin, finalement, les Chinois sont l'Europe. Ils ont un problème puisqu'ils ne pourront plus écouler leurs marchandises. Donc, ça créerait des situations, disons, sociales difficiles chez eux. Donc, on peut très bien le faire. Or, finalement, le chantage, c'est pas nous qui l'exerçons. Ce sont les pays étrangers, hein, les États-Unis par exemple, qui de temps en temps interdisent la vente de certains produits français quand ça leur chante, etc. Alors pourquoi ne réagissons-nous pas ?
Voilà, pourquoi ne réagissons-nous pas ? C'était le débat. On en parle depuis le début de cette émission, Charles Guérin.
Mais si, encore une fois, on réagit. Les Américains ont réagi, les Européens ont réagi au dumping fait notamment dans le domaine de l'industrie sidérurgique. Et il y a une réaction de la Chine dont on ne parle pas. La Chine vient de décider il y a quelques jours de vouloir réduire sa production d'acier annuelle de 150 millions de tonnes. Voilà un résultat. Si on était resté inactif, si on était resté muet, il n'y aurait pas ce résultat. Je ne sais pas si ça va résoudre tous les problèmes, parce que la situation dans l'industrie sidérurgique en Europe est catastrophique. Mais enfin, il y a eu une réaction. Donc, ne disons pas, mettons à l'actif de l'Union européenne, et aussi peut-être de ce point de vue aux Américains, qui ont menacé de vouloir augmenter de 30% les tarifs à l'importation de l'acier chinois. Donc, ces initiatives sont porteuses quand même de certains résultats.
Alors, je voulais passer à un autre sujet comme intérêt très, très important, c'est la défense. Donald Trump, visiblement, a fait des déclarations, effectivement, pendant la campagne, que l'Amérique pourrait se retirer de l'OTAN. Est-ce que finalement, là aussi, ce retour sur l'Amérique d'abord, c'est pas finalement, entre guillemets, une chance pour la défense européenne, pour que les Européens mettent en place, en fait, une vraie défense européenne un jour ?
Regardons-nous ça comme une opportunité. C'est vrai que les discours de Donald Trump posent un problème sur le plan de la prédictibilité et de la sécurité à l'avenir. Et c'est le moment pour l'Union à bâtir sur la défense et la sécurité européenne. C'est le moment, et voilà, le Parlement a commencé à travailler hier et demain sur ça. Je crois que ça marche. D'un côté, de l'autre côté, je n'imagine pas le moment quand la superpuissance mondiale, les États-Unis, vont décider à quitter toutes ces positions dans le monde, parce que dans le moment... Dans
là
ce
aussi,
moment-là,
la
superpuissance n'existe plus. Donc, soyons prudents entre le discours de la campagne et le discours et le pragmatisme du gouvernement et aussi l'établissement américain et la puissance militaire américaine d'un côté et de l'autre. que l'Europe va cesser cette tentation facile à n'investir pas dans le domaine de la défense, parce que nous sommes pacifistes, la paix y est éternelle, parce que les réalités actuelles imposent aussi une dimension de défense et de sécurité, comme en répond pour les besoins quotidiens de nos citoyens.
Frank Engel, en même temps, pour poursuivre la question, une défense européenne sans la technologie américaine, ça me paraît difficilement concevable.
Ben, ça serait d'autant mieux. Là encore, ce serait d'autant mieux. Premièrement, je veux vous dire, si sous Trump ou à partir de Trump, les États-Unis décident d'arrêter, de détruire insensément des États autour de l'Europe, pour que l'Europe ramasse l'ensemble de la misère par après, ce ne sera que tant mieux. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour dire que la France a essayé de s'y opposer dans le cas de l'Irak avec l'Allemagne. Elle n'avait malheureusement pas de succès. J'aurais souhaité qu'elle ait eu du succès et que les États-Unis agissent de manière foncièrement différente de ce qu'ils ont fait. Il n'y aurait pas d'État islamique sans les États-Unis. Avant de parler de tous les autres, sans les États-Unis, jamais d'État islamique. De toute façon, pas avec un territoire. Deuxième point, nous ne faisons rien en matière militaire. Nous avons en Europe 28 armées nationales, enfin bientôt 27. Nous avons presque 2 millions de gens sous armes, ce qui est au moins un tiers de plus qu'aux États-Unis. Alors que le budget de défense des États-Unis, le budget militaire des États-Unis est de 600 milliards et le nôtre de 200, un tiers. Sachant que nos forces et nos capacités ne sont pas interopérables, sachant qu'il n'y a pas d'agence d'armement, sachant qu'il n'y a aucune dimension académico-industrielle d'innovation, de recherche liée à la défense, aux techniques militaires, aux technologies militaires et ainsi de suite, tout cela pourrait constituer un créneau fort intéressant. Même d'un point de vue économique en Europe. Et bien évidemment, les principaux pays à identité militaire forte, comme la France, en seraient les principaux bénéficiaires, donc je ne verrais pas pourquoi elle s'y opposerait objectivement, si ce n'est que la vieille notion nostalgico-romantique qui consiste à dire « mais il faut que mon fils soit commandé par un compatriote ». Moi, je vous dis, il y a des soldats luxembourgeois qui participent à une mission menée par la France au Mali du Nord sous les commandes d'un officier français compétent. Ça marche très bien.
Charles Goerens, 10 secondes.
J'étais ministre de la Défense et je n'ai pas appris grand-chose, mais ce que j'ai appris, c'est quand même qu'une armée européenne sans le Royaume-Uni, ça va être difficile, hein, parce que là, on va être privé d'un partenaire extrêmement fort. Je crois que le Royaume-Uni a une des meilleures armées du monde. Mm-hmm. Ceci dit, l'Union européenne, c'est très compliqué. Qui prendrait le leadership ? On a deux puissances nucléaires, encore à l'heure actuelle, on n'est pas sûr si elles partagent avec les autres pays, 4 pays neutres. Donc faire un ensemble, une entité bien performante avec une situation aussi hétéroclite, ça ne va pas être facile.
Ça ne va pas être facile.
Et avec nos amis turcs en vicinité immédiate. Oui, oui.
Merci à tous les trois pour cette émission, à la réalisation à Paris, Eric Lenné, assisté d'Amélie Stadelmann. Et merci à toute l'équipe, Sarah Tanguy, Vincent Gendreau, Jürgen Schmitt et Jean-Christophe Pécheur pour les images d'une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site de France Inter. Bonsoir, dans quelques instants, il sera 20h.